أما بعد، فالحمد لله، سنواصل إن شاء الله تعالى قراءة ما يتيسر من شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى بشرح معالي الشيخ سليمان ابن عبد الله القصير حفظه الله تعالى. وقد وقفنا في كتاب الصلاة، في كتاب الصلاة باب ما يوجب، لا كتاب الصلاة باب صفة الصلاة، باب صفة الصلاة. نعم، وقد ذكرنا قبل ذلك الأماكن التي لا تصح فيها الصلاة، وذكرنا منها المحل النجس، ومنها المقبرة والحمام وأعطان إبل. إذن الأماكن التي لا تصح فيها الصلاة كم إخوة الأماكن؟ نعم،
خمسة، والأرجح أربعة.
نعم، الأرجح
أربعة.
أربعة أماكن هي
صلاة جنازة، يناير الفون، وبلاد الفون، نال سيبجا.
لا، لا نتكلم عن صلاة جنازة، نتكلم عن الصلاة. صلاة جنازة جائزة في المقبرة، جائزة في المقبرة، لكن الصلاة غير صلاة الجنازة لا تصح. أولا في محل نجس، في محل فيه نجاسة. ثانيا في مقبرة. ثالثا في حمام. ورابعا في أعطاني إبل. Donc, on avait dit qu'il y avait quatre endroits dans lesquels la prière n'est pas valide. La prière n'est pas valide dans ces quatre endroits. Le premier, un endroit impur, où il y a de l'impureté. Le deuxième, un cimetière. À partir d'une tombe, c'est un cimetière. D'accord ? À partir d'une tombe, ça devient un cimetière. Troisième endroit, al-hammam. Al-hammam, l'endroit où on se lave. D'accord ? Et quatrième, la bergerie des chameaux. Hein? En dehors des moutons, des vaches, etc., ça ne rentre pas dedans. Ça concerne seulement la bergerie ou l'étable des chameaux. Là où les chameaux y vont et passent la nuit. D'accord ? Alhamdulillah. Wa binisbati li al-masajid allati fiha qubur. المساجد فيها قبور أو قبر. قد تواترت أولا النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد. اتخاذ القبور مساجد. من هذه الأحاديث ما رواه مسلم في صحيحه عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، قبل أن يموت بخمس أي خمس ليال، يقول ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. واضح. ومعنى اتخاذ القبور مساجد أي بناء المساجد، بناء المساجد على القبور، وقصد الصلاة فيها. concernant premièrement le fait de prier dans une mosquée où il y a des ou une tombe. D'accord ? Où il y a des ou une tombe. Il a été rapporté donc de manière mutawatir, ça veut dire que ces hadiths qui interdisent cela ont été rapportés par de nombreux rapporteurs. D'accord ? Énormément de rapporteurs à chaque niveau de transmission. Yani, nous trouvons de nombreux rapporteurs dans la chaîne de transmission. Ce qui fait que le hadith a un degré d'authenticité qui est élevé. Qui est élevé. Bi'idhnillah. Et parmi ces hadiths, celui de Jundub ibn Abdullah al-Bajali, radiyallahu anhu, que l'on retrouve dans Sahih Muslim. Il dit, j'ai entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, 5 jours avant qu'il meure. Ou 5 nuits avant qu'il meure, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qui a dit, certes, ceux qui vous ont précédés ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme des lieux de prière. Comme des lieux de prière, comme des mosquées. Ne prenez donc pas les tombeaux comme des lieux de prière, car je vous l'interdis. Car je vous l'interdis. Et vous remarquez que le fait qu'il ait dit ça 5 jours avant qu'il meure, yani, il voulait attirer l'attention sur le fait qu'il fallait que les sahaba ne prennent pas sa tombe comme un lieu de prière. Comme un lieu de prière, qu'ils fassent attention. C'est pour ça que Aïcha, radiyallahu anha, ne l'a pas enterré dans le cimetière. Mais elle l'a enterré dans sa chambre. Pour pas que les gens, justement, yani, viennent et prennent sa tombe comme un lieu de prière. Donc elle a pris son conseil et elle l'a enterré dans sa chambre, là où il est mort. Non. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire le fait de prendre les tombes comme des mosquées, c'est-à-dire le fait de construire la mosquée sur la tombe. Construire la mosquée sur une tombe. D'accord ? Et de prier dedans par la suite. Tayeb. Al-an ikhtalafa al-fuqaha fi hukm as-salat fi al-masjid alladhi fihi qabr. اختلف الفقهاء الراجح والصحيح والله تعالى أعلم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد عن الصلاة يعني في المسجد الذي فيه قبر يقول لا يجوز ولا تصح لا يجوز ولا تصح الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعنه من اتخذ القبر مسجدا قد لعن هذا الذي اتخذ القبر مسجدا وكذلك الذي أوقد على القبر سراجا هذا لا يجوز الذي أوقد سراجا على القبر وهذا إذا كان القبر داخل المسجد داخل المسجد أما إذا كان خارج المسجد بحيث يفصل بينه وبين المصلين جدار مثلا جدار فإن ذلك لا إشكال لا إشكال في الصلاة في مثل هذا المسجد وكذلك إذا كان القبر في الساحة الخارجية من المسجد فذلك لا يؤثر كذلك على الصلاة fihi. Donc les fuqaha, ils ont divergé sur le statut de cette prière-là qui est faite dans une mosquée où il y a une tombe. Et cela peut se produire, notamment dans les pays du Maghreb ou autres. On peut retrouver des mosquées où dedans il y a des tombes, même en Palestine. Et donc est-ce que la prière, elle est valide ou pas, dans ce cas-là? Ils ont divergé, mais la parole la plus juste, c'est, comme l'a dit Ibn Qayyim, rahimahullah, dans Zad al-Ma'ad, il dit, cela n'est pas permis et la prière n'est pas valide. Dans ce genre de mosquée, elle n'est pas valide. Bidouni tafsir, il n'a pas fait de tafsir, comme ont fait certains ulama. Lui, il a dit, il n'est pas valide dans tous les cas, il n'est pas valide. Pourquoi? Parce que le prophète l'a interdit, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a même maudit celui qui fait ça, qui prend ou qui construit la mosquée sur une tombe. Il a également interdit le fait d'allumer des lampes sur les tombes également. Ça, c'est interdit. Le fait d'allumer des lampes, ils font toujours ça un peu. Les bougies, ils mettent des bougies, voilà. Le fait d'allumer des bougies sur les tombes. Ceux qui font ça, ils le font pour glorifier la tombe. D'accord ? Ça, c'est pas permis non plus. Donc ça, ça concerne les mosquées dans lesquelles il y a la tombe. D'accord ? Les tombes sont à l'intérieur même de la mosquée. Maintenant, si la tombe est à l'extérieur de la mosquée, elle est à l'extérieur de la mosquée, d'accord ? Eh bien, cela, il n'y a pas de problème. D'accord ? Du moment où la tombe est à l'extérieur, il n'y a pas de problème. D'accord ? À prier dans cette mosquée-là. Si la tombe, elle est, par exemple, dans l'espace qui entoure la mosquée, mais tant qu'elle est en dehors de la mosquée, derrière les murs de la mosquée, yani, eh bien, il n'y a pas de problème non plus. Cela ne va pas toucher la validité ou pas de la prière. D'accord ? Donc, concernant la prière dans la mosquée de Ibrahim alayhi salam, d'accord ? Là où il est enterré. Il faut savoir que parmi les prophètes, on a celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est bien sûr authentique, mais celle d'Ibrahim alayhi salam aussi. Les ulama disent que c'est bien la tombe du prophète Ibrahim alayhi salam qui est enterrée là. C'est bien sa tombe. Elle se trouve à El Khalil, fi Philistine. D'accord ? À l'endroit qui s'appelle El Khalil. En français, ils disent Hébron. Ça, c'est en hébreu, en fait. En hébreu, c'est Hébron. En vérité, le nom arabe, c'est El Khalil. D'accord ? C'est là où il a enterré Ibrahim alayhi salam. Et en fait, à la base, il n'y avait pas de mosquée à la base. Il n'y avait que sa tombe. Après, ils sont venus, ils ont construit la mosquée sur sa tombe. Chose qui n'a pas été faite par les salafs salih. Ça a été fait bien après. D'accord ? Donc du coup, Cheikh Al-Fawzan et d'autres ont dit qu'il n'est pas permis de prier dedans. C'est pas parce que là, la tombe, elle est vraiment à l'intérieur de la mosquée même. Elle est pas, il n'y a pas de séparation. D'accord ? Il n'y a pas de séparation. Non. Donc, la prière dedans, elle n'est pas permise. Et selon l'avis le plus correct, c'est qu'elle n'est pas valide. Elle n'est pas valide. D'ailleurs, regarde. كان جاهلا كان نعم صحيحة لا يعيدها لا يعيد صحيحة نعم لأنه كان جاهل الحمد لله طيب الحمد لله إذن ذكرنا الركن الأول من أركان الصلاة الذي هو القيام الذي هو القيام ها؟ لكن هل يجوز أن نصلي قاعدا بدون عذر في الصلاة النافلة est-ce qu'il est permis de prier assis pour la prière facultative Yassine نعم هذا يجوز لأن هذا الركن القيام على القادر في الفرض على القادر في الفرض فالذي يصلي النفل قاعدا مع القدرة على القيام فصلاته صحيحة لكن له نصف أجر صلاة القائم مع عدم العذر وبعذر له مثل أجره طيب Donc celui qui prie assis, une prière facultative, alors qu'il est capable de prier debout, sa prière est valide. Mais il a la moitié de la récompense s'il n'a pas d'excuse. S'il a une excuse, il aura toute la récompense, ou la récompense de celui qui prie debout, tant qu'il a une excuse. D'accord les frères ? Wa arukn thani, dhakarnahu kadhalik, huwa madha, takbiratu al-ihram. تكبيرة الإحرام وذكرنا رفع اليدين فيه نعم وله أربع مواضع الأول عند تكبيرة الإحرام طيب الثاني مالك عند الركوع أحسنت الثالث عبد الرحمن نعم عند الرفع منه عند الرفع منه والرابع زكريا ها ما تعليش في الصلاة. ترفع اليدين.
عفوا نشتي ما عندي بوتي.
طيب.
شتاني ما. عفوا
والله. En prière.
نعم.
Il y a quatre endroits dans lesquels tu lèves les mains comme ça. هذه سنة.
نعم. نعم.
Le frère il a dit lorsque tu fais تكبيرة الإحرام الله أكبر. Le deuxième quand tu t'inclines الله أكبر. Le troisième quand tu reviens سمع الله لمن حمده. Quatrième c'est où?
C'est après le deuxième tashahhud.
Après le deuxième tashahhud.
Après le premier tashahhud.
Après le premier tashahhud. Non, après le premier tashahhud. D'accord, c'est un endroit où on lève les mains également. Ay na'am. Ça c'est les quatre endroits. Tayeb. Non. وذكر العلماء كذلك نظره عند ركوعه وعند قيامه إلى موضع سجوده النظر عند القيام وعند الركوع إلى موضع السجود طيب أما عند التشهد فإلى السبابة أو السباحة طيب دونك Les ulama disent aussi, par rapport au hadith, que quand tu es debout en prière ou incliné, ton regard est dirigé vers l'endroit du sujoud, vers là où tu poses ta tête. D'accord? Mais quand tu fais tashahhud, ton regard est dirigé vers as-sababa. C'est quoi as-sababa? L'index, en français. L'index. Voyez? En arabe, on dit sabab ou sabaha, comme l'a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khala as-sabahataini fi al-udhunayn. Kama fi al-hadith, et kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comment on les appelle les autres doigts, les frères? Le pouce, comment on dit?
Le pouce.
Bafouzan. Oh, le pouce. Comment on dit? Hein? Non. Allah. Fudayl. Les pouces. Les pouces. Tu as fait les pouces sur le toston. L'ibham. L'ibham. Al-sababa. Ou al-sabaha. Le doigt du milieu, c'est quoi? Al-wusta. Ahsant. Thumma. Hadi. Hein? L'akhira. Dunya ou l'akhira. Dunya ou l'akhira. لا البنسر البنسر والخنصر البنسر والخنصر طيب صاش كل ماده الامتحان صاش كل ماده جميع طول الابهام السبابه او السباحه الوسطى البنسر هذاك الصوت البنسر والخنصر هذاك الصوت طيب الحمد لله ثم يقول مؤلف رحمه الله سهل الحمد لله ويضع يده اليمنى أي عند القيام يضع يده اليمنى على اليسرى فوق سرته فوق سرته أو تحتها نعم أو تحتها تحت سر أو على صدره أو على صدره يقول الشيخ سليمان وضع اليد اليمنى على اليسرى ثابت في أحاديث كثيرة ومنها حديث وائل ابن حجر الآتي أما وضع اليدين تحت سرة ففيه حديث علي حديث علي رضي الله عنه قال من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت سرة أخرجه أبو داود وضعفه البيحقي وضعفه البيحقي وابن حجر في فتح الباري أما وضعهما في صدر فلحديث وائل ابن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره هذا الحديث صحيح مقبول أخرجه ابن خزيمة في الصحيح وأصله في مسلم دون قوله على صدره والله تعالى أعلم. طيب دونك يجي للشيخ رحمه الله تعالى la personne met sa main droite sur sa main gauche au-dessus du nombril, donc sur le ventre au-dessus du nombril ou en dessous du nombril ou en dessous du nombril ou sur la poitrine. Donc la poitrine, ça part hein, du dessous du cou jusqu'au ventre, d'accord, ça c'est la poitrine. Et c'est pareil pour l'homme et la femme, hein. Il n'y a pas de différence. D'accord ? Donc il dit le Cheikh Souleyman, la pose de la main droite sur la main gauche, cela est affirmé dans de nombreux hadiths, notamment celui de Wa'il ibn Hujr, qu'on va voir. Quant au fait de poser les mains en dessous du nombril, ça vient du hadith de Ali, radiyallahu anhu, qui aurait dit que dans la sunna, eh bien, le fait de mettre la main sur la main, c'est-à-dire la main droite sur la main gauche, en prière, en dessous du nombril. C'est de là qu'a pris le Cheikh Saadi ce jugement. Donc le hadith dans le Sunan de Abi Daoud. Mais Al-Bayhaqi, il a rendu faible ce hadith, et également Ibn Hajar, fi Fath al-Bari. Donc le hadith, il est faible. Da'afu kadhalik, sur le ban. Na'am. Le hadith est faible. Quant au fait de poser les mains sur la poitrine, cela vient du hadith authentique de Wa'il ibn Hujr, dans lequel il dit, radiyallahu anhu, j'ai prié avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et il a posé sa main droite sur sa main gauche, sur la poitrine. D'accord ? La main droite sur la main gauche, sur la poitrine. Le hadith chez Ibn Khuzaymah, et il existe également une version dans Muslim. De la Sahih Muslim, sans la mention de poitrine. Wallahu a'lam. Tayyib. Fa'ida hunak. Qad sami'tuha. Athna durus Cheikh Souleyman al-Ruhayli fi Amsterdam. Qala Cheikh, fidahu Allahu ta'ala, wad'u al-yadayn lahu 'iddatu suwar. له عدة صور منها وضع الكف الأيمن على ظهر كف الأيسر وضع كف الأيمن على ظهر كف الأيسر هكذا أي على ظهر الكف الأيسر ورسخها وساعدها أي ذراعها معا هكذا أو يقبض على رسخها والساعد يقبض هكذا. Donc parmi les فوائد que on a pu tirer du séminaire de la daura que a fait Cheikh Souleyman al-Ruhayli à Amsterdam, il dit que la pose des mains ou de la main droite sur la main gauche en prière, elle se fait de plusieurs façons, tu as plusieurs manières de la faire. Parmi elles, le fait de poser la paume de ta main droite sur le dos de la main gauche, comme ça. D'accord ? C'est-à-dire que ta main droite va couvrir trois parties. Elle va couvrir le dos de la main gauche, la poignée, mais le bras aussi, en même temps. Donc c'est trois parties en même temps, hein, Kader ? D'accord, les trois. Et la deuxième manière, al-qabd, le fait d'empoigner comme ça. Le fait d'empoigner donc avec ton pouce là au niveau du poignet et les autres doigts en dessous qui enroulent le poignet gauche. D'accord ? Donc tu vas empoigner ton poignet gauche. Hakada. C'est les deux manières. Soit comme ça, soit comme ça. Wa minha kadhalik an tadha'a al-kaff al-ayman ala ساعد اليسرى هكذا على ساعد اليسرى طيب او تقبض كذلك عليها او تقبض عليها هذا يجوز. Et parmi ces manières également, le fait de poser la main droite sur l'avant-bras gauche, sur l'avant-bras gauche. Ou l'empoigner, tu peux l'empoigner aussi. D'accord ? Donc ça fait combien de façons ?
Quatre.
Ça fait quatre façons. Hein ? En résumé. La première, comme ça, sur le poignet. Ou tu l'empoignes, ça fait deux. La troisième, posée sur l'avant-bras. Ou tu l'empoignes. On fait, voilà, ça fait quatre. D'accord ?
Il n'y a pas celui-là.
Hein ? Là, le coude, là. L'avant-bras, ça s'arrête là, l'avant-bras. Aynam, fala yubalir fi hada. La yubalir fi raf'iha ila halqihi ila al-halq. L'adam est wurdi sunna bidhalik. D'accord ? Le fait de monter trop haut, hein, jusqu'au cou, ou alors de carrément jusqu'aux épaules, par exemple. Ah, là. La sunna n'est pas venue avec ça. La sunna est venue avec ces quatre manières que les ulama ils ont citées. D'ailleurs ? Non, après, bien sûr, selon vos capacités. Hein, selon vos capacités. C'est-à-dire que ça, c'est une sunna. D'accord ? C'est une sunna. Donc maintenant, tu ne vas pas faire une sunna pour, en faisant mal à tes voisins. D'accord ? Si pour faire la sunna, tu vas faire mal aux voisins, ne fais pas la sunna. D'accord ? Dans ce cas-là, tu vas essayer de trouver une position, yani, qui ne gêne pas ton voisin. Mais en général, wallahi, en général, il n'y a pas de problème. Surtout quand tu fais ça. Il faut vraiment que la personne elle a des bras, machallah. Mais quand tu fais ça, en général, ça gêne pas, tu vois. Ça gêne pas. D'accord ?
J'ai déjà vu aussi des personnes qui empoignent le coude.
Non. Voilà. On dit les quatre façons, c'est ça. D'accord ? Il n'y en a pas d'autres. Alhamdoulilah. Est-ce que c'est bon, les frères ?
Il y en a qui sont comme ça, en fait. Ils pivotent le buste sur la gauche pour ne pas gêner le voisin. Ils sont comme ça, en fait.
S'ils n'ont pas le choix, s'ils n'ont pas le choix, alhamdoulilah, tu vois, en fait, leur corps, il est vers la Qibla, mais en plus, la Qibla, tu sais que on a une marge, alhamdoulilah. Dans tous les cas, voilà, faut pas faire mal aux voisins. Vous voyez, là, il y a tous. Wa yaqulu subhanaka Allahumma wa bihamdik وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Puis il dit, d'accord, une fois qu'il a posé ses mains, enfin plutôt, une fois qu'il a fait takbirat al-ihram, il a levé les mains, il les a posées sur la poitrine ou sur le ventre, il dit ce qu'on appelle dua al-istiftah. Dua al-istiftah. سبحانك اللهم وبحمدك. C'est-à-dire, donc subhana, c'est un tasbih ici, on l'a vu hier, pour ceux qui étaient là. Tasbih, tout ce que ça engendre et tout ce que ça inclut comme ma'ani, tasbih. سبحانك اللهم, ou Allah, gloire et pureté à toi. وبحمدك. D'accord ? Et louange à toi, ou alors, par ta louange, je fais ton tasbih. Par ta louange, par ta grâce, je fais ton tasbih. D'accord ? وتبارك اسمك اي تعظم que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié. وتعالى جدك تعالى تعظم جدك اي عظمتك. Donc le jad ici c'est ta grandeur, que soit élevée ta grandeur. D'accord, تعالى جدك. Il faut savoir le sens de ce qu'on dit. Donc, subhanakallah bihamdik, wa tabarak asmuk, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha ghayruk. Wadih. Ay la ma'abuda bihaq illa iyak. Hada du'a al-istiftah. Wa dalla alayhi hadith Abi Sa'id anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kan إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي أشهر حديث في الباب وقد تكلم في إسناده. وقال أحمد لا يصح هذا الحديث. قال أحمد لا يصح هذا الحديث. وعن عمر أنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره أخرجه مسلم، لكن روى مسلم في الصحيح عن عمر، عن عمر أنه كان يجهر بهذه الكلمات. وقال ابن حجر في البلوغ، أي بلوغ المرام، رواه مسلم بسند منقطع، ودار قطني موصولا وموقوفا. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد صح عن عمر أنه كان يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر به ويعلمه الناس، وهو بهذا الوجه في حكم المرفوع، بهذا الوجه في حكم المرفوع. ولهذا قال أحمد: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر، أذهب إلى ما روي عن عمر، ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي لكان حسنا، لكان حسنا. Donc cette dua, il y a un hadith qui l'a rapporté, cette dua, qui est celui de Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été rapporté de lui qu'il ait dit cette dua-là, yani, en ouverture de as-salat, en ouverture de la prière. Donc le hadith rapporté par Abi Daoud, Tirmidhi, An-Nasa'i ibn Majah. Naam. Mais il faut savoir qu'il y a eu des paroles sur ce hadith, et que même l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, il a dit que ce hadith n'est pas authentique. Ce hadith-là n'est pas authentique. Malgré ça, il a été rapporté par Muslim que Omar, radiyallahu anhu, faisait cette invocation-là à voix haute. Omar, il la faisait. D'accord ? Le athar de Omar, yani, certains ont dit qu'il est authentique par contre. Certains ont dit qu'il est authentique et qu'il remonte bien jusqu'à Omar. Tel que l'a dit Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, qui dit que Omar faisait bien cette invocation-là d'ouverture. Il la faisait même à haute voix pour l'enseigner aux gens. Il enseignait aux gens. Donc, ce qu'il a fait dans la prière est une adoration. Et l'adoration, elle est tawqifiyya. Elle est tawqifiyya. D'accord ? C'est-à-dire que l'adoration, toute adoration est interdite jusqu'à ce qu'on ait la preuve de pouvoir le faire. Donc si Omar il a fait ça, c'est que forcément il a pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Parce qu'il ne peut pas faire d'ijtihad dans l'ibada. Il n'y a pas d'ijtihad dans l'ibada. D'accord ? C'est pour ça là qu'on dit que son jugement, le statut de cet acte-là, il est marfou. Il est marfou. Il remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, car Omar ne peut pas faire d'ijtihad. L'ajtahid fi hadha. D'accord ? Et c'est pour ça que l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, celui qui a rendu faible le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, malgré ça, il a dit: je suis d'avis que celui qui fait ce qu'a fait Omar, eh bien, cela est correct. D'accord ? Malgré le fait qu'il ait rendu faible le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit: celui qui fait comme Omar, ibn Khattab, eh bien, il a fait quelque chose de bon et de correct. Alhamdulillah. Est-ce que c'est bon, les frères? ثم يقول أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك استفتاحات أخرى واردة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. أخرجه البخاري ومسلم. متفق عليه. هذا الدعاء متفق عليه، لا إشكال فيه. يدي الشيخ السعدي et d'autres invocations يعني d'ouverture qui sont apportées le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a pas qu'une seule, il y en a d'autres, plusieurs. Et parmi elles, celle qui est rapportée par Abi Hurayrata radiyallahu anhu dans les deux sahih de Bukhari et Muslim, dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, après avoir fait le takbir, Allahu Akbar, a dit: ô Allah, éloigne-moi de mes péchés, comme tu as éloigné entre l'Orient et l'Occident. Ô Allah, purifie-moi de mes péchés comme le vêtement blanc est purifié des impuretés ou de l'impureté. Ô Allah, lave-moi de mes péchés par la neige, l'eau et la grêle. Non. Donc le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim.
Ces invocations, si on les dit en français, ça passe ou...
Si tu n'as pas le choix, tu peux les dire en français, inshallah ta'ala. Mais apprends-la en arabe, inshallah. Il faut faire un effort et les apprendre en arabe et en ta'ala. Non. Est-ce que c'est bon, Ikhwan?
Est-ce que si tu dis que la moitié de l'invocation, est-ce que tu peux le compenser? Parce que moi, j'ai appris que le début, en fait. Et ça fait un moment que je dis que le début.
Mais termine, inshallah ta'ala. Ouais. Termine, bien la ta'ala. Hein? Termine, bien la ta'ala. Bien sûr, c'est recommandé, c'est mustahab. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. D'accord? Donc là, le cheikh, dans sa façon de faire, vous avez remarqué qu'il n'a pas fait comme certains. D'abord, il a cité les piliers, après les obligations, après les sunan. Là, il cite la prière du début à la fin. Il a décrit la prière du début à la fin. Il va le faire ça, mais après. Après, vous allez voir qu'il va le faire, inshallah ta'ala. Taïeb. ثم يتعوذ ثم يتعوذ إذن بعد دعاء الاستفتاح يتعوذ أي يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولحديث أبي سعيد الخدري المتقدم وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. نعم. Donc après avoir fait cette invocation de l'ouverture, tu fais ce qu'on appelle التعوذ. C'est-à-dire, tu dis أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Donc cette dua, les frères, c'est pas pour la prière en vérité. Cette dua, tu l'as fait parce que tu vas réciter le Fatiha. D'accord? C'est pour ça que tu fais ta'awud. Il n'y a pas de lien en vérité propre à la prière dans le sens où c'est lié à la récitation que tu vas faire après. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui prie derrière un imam et qui a pris l'avis que quand l'imam il récite Jahran à voix haute, lui il ne récite pas le Fatiha. D'accord? Celui qui a pris cet avis-là. Eh bien, lui, il n'a pas à faire ta'awud. Parce qu'il ne va pas réciter. D'accord? Il rentre en prière, il fait du'a l'istiftah, il écoute l'imam.
Mais si c'est pour...
Pour?
Pour les wasawis, j'attends.
Ah, non, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Si c'est celui qui a des wasawis, mais la sunna, il y a un ta'awud. Hein, que tu crachotes sur le côté gauche, etc. Là, on ne parle pas de ça. On parle de celui qui ne récite pas du tout, qui n'a pas de wasawis. Il n'a pas à faire ta'awud. D'accord?
Ah, mais c'est qui va les avoir, par exemple les...
Comment ça, tu sais?
Non, mais...
Il sait qui va les avoir.
Je veux dire... Il a beaucoup de... Ouais, ça, oui,
non, non, non. S'il n'a rien, ça, il ne fait pas. Il attend. Quand il en a, il peut le faire. D'accord? Enam. Enam. Taïm. Est-ce que c'est bon, Ikhwan?
Par exemple, si je commence à faire la dua, l'imam, il n'a pas fait. Il a commencé le Fatiha. J'ai pas fini la dua. Est-ce que je m'arrête si j'ai pris la vie?
Quelle dua?
La dua de
l'istiftah? Tu écoutes l'imam.
Ça veut dire que je
tu coupes. Coupe. Tu coupes. Parce que dua l'istiftah, c'est une sunna. Alors que écouter l'imam, al-fatiha, al-quran, c'est une obligation. C'est pas une sunna, non, délaisse une obligation.
Et si aussi, même, j'ai pas eu le temps de faire de
ça dépend si tu récites, ou pas le Fatiha.
Récite pas.
Tu récites pas, tu le fais pas. Parce que l'istiaada, c'est pour celui qui récite.
Non, je fais que le
takbir. Et tu fais ce que tu peux. Si tu as le temps de faire de l'istiftah, tu fais de l'istiftah. Si tu as le temps. D'accord. Ça, c'est pour les prières à voix haute. Hein. Pour les prières à voix basse.
Et le Allah
alam. Après le Rajah, ça va dépendre de la personne, frère. Non, non. Pour moi, c'est le Rajah, mais pour Mohamed, c'est Barjoua. Tu vois? Eh ouais, un âme. Après, ça, chacun de d'étudier la chose, bi'idhnillah ta'ala. Moi, personnellement, j'ai pris l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, qui dit que tu ne récites pas, que l'imam récite à voix haute. Non. Al-Muhim, donc c'est le fait de dire « A'udhu billahi minash shaitanir rajim ». D'accord ? Et cela en vertu du verset dans Surat Al-Nahl, le sens rapproché où Allah dit « Et lorsque tu récites Al-Qur'an, demande refuge ou cherche refuge auprès d'Allah contre le shaitan al-rajim ». Et aussi du hadith de Abi Sa'id al-Khudri, dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, après le takbir, il a dit « A'udhu billahi as-sami' al-alim min ash-shaytan al-rajim min hamzihi wa nafrihi wa nafthi ». D'accord ? Donc, ça c'est, vous avez encore une fois ici plusieurs versions de ta'awud. Il y a plusieurs façons de le faire. Tu peux faire la plus simple qui soit, qui est « A'udhu billahi min ash-shaytan al-rajim ». Hein ? Celle-là, voilà, elle est permise. Après, si tu veux, de temps en temps, yani, pour faire la sunna, pour diversifier dans ta sunna, dans ton adoration, d'accord ? Tu rajoutes As-Sami' al-Alim. A'udhu billahi As-Sami' al-Alim min ash-shaytan al-rajim. D'accord ? Tu peux faire ça. Et si tu veux, tu rajoutes encore à la fin min hamzihi wa nafrihi wa nafthi. Donc il y a trois ici. Il y a trois manières de le faire. Permis. Vous voyez ? Donc après, au niveau du vocabulaire, le hams, celui qui le dit, il faut savoir qu'il sache. Et il faut qu'il sache ce que ça veut dire. Pareil pour neuf et pareil pour neuf. D'accord ? Ça ne sert à rien d'apprendre des invocations sans savoir ce que ça veut dire, les frères. Vous voyez ? Donc le hams, le ulama il dit, c'est jins min al-junun. Ou sara min al-shaytan. D'accord ? Le fait que la personne perde la raison à cause du shaitan. Sara, dans le langage médical, c'est l'épilepsie. Sara. Quelqu'un qui est épileptique, qui a des crises d'épilepsie, ses muscles, ses nerfs, ils se tendent, et ses muscles, ils se tendent, yani, hein, vous voyez à peu près c'est quoi l'épilepsie. Donc, shaitan, il peut provoquer ces choses-là. Shaitan, il peut provoquer ces choses-là, d'accord ? À travers les wasawis ou autres, il peut provoquer ça. La personne perd sa raison. C'est plus ce qu'elle fait. Na'oud billah min dalik. Donc, le hams, c'est ça le hams. Un nafrou, c'est le kibr. Un nafr, c'est le kibr, c'est l'orgueil. L'orgueil. Le fait que la personne s'enorgueillisse, se gonfle d'orgueil à cause des shaitans, de ses wasawis. Et troisième, le nafr, c'est shi'r, le madhmoum. La mauvaise poésie. La mauvaise poésie que le shaitan peut inciter la personne à écouter ou à faire. Et rentre dedans, les frères, la musique. La musique ou les paroles des chansons, hein, c'est la poésie, entre guillemets, les chansons. D'accord ?
C'est pas la prière, non ?
Non, ça c'est de manière générale. De manière générale. Tu peux demander, yani, faire cette invocation-là avant de réciter fi salat, en prière. D'accord ? Non. Mais c'est pas que pendant la prière. C'est une protection que tu demandes pour tout le temps, de manière générale. Est-ce que c'est bon, les frères ? ثم يقول ويبسمل ويبسمل ما معنى يبسمل يقول بسم الله الرحمن الرحيم طيب والصحيح أنها ليست آية من الفاتحة ليست آية من الفاتحة البسم الله البسملة عفوا الدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي حمدني عبدي الحديث القدسي طيب وهذا دليل على أن البسملة ليست آية من الفاتحة وما هو وجه الدلالة وجه الدلالة ما هو Donc, le basmala, le fait que, il dit ici, wa yubasmil. Wa yubasmil. Basmala yubasmilu. C'est-à-dire le fait de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Après, at-ta'awud. Tu as fait at-ta'awud, tu dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et ce qui est correct, c'est que al-basmala n'est pas un verset de Fatiha. Ce n'est pas un verset de la sourate al-Fatiha. La preuve, le hadith d'Abi Hurayra, dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'Allah dit, Allah il dit, j'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur en deux. Quand mon serviteur, il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Ta'ala, il dit, mon serviteur m'a loué. D'accord? Donc ça, c'est la preuve que Al-Basmala n'est pas un verset de Al-Fatiha. En quoi c'est une preuve, les frères? Maintenant que vous connaissez la preuve, en quoi c'est une preuve?
Parce qu'il n'a pas dit.
Attends, il faut aller. Moudian, vas-y, Akhi, vas-y.
S'il n'a pas cité,
non. Non, c'est ça. Non, Mahsant. لأنه لم يذكر Al-Basmala. Car il n'a pas cité Al-Basmala. Car si c'était un verset, eh bien, il aurait cité dans le hadith, il a قال عبدي بسم الله الرحمن الرحيم. Mais il a commencé directement par Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc c'est la preuve que le basmala n'est pas un verset de Surat al-Fatiha. Mais c'est mustahab, encore une fois. C'est recommandé de dire la basmala avant de réciter Surat al-Fatiha. C'est recommandé, comme pour toutes les autres surat, excepté Surat al-Bara'a.
Et qu'en est-il pour ceux qui récitent Abu Ot, Bismillahirrahmanirrahim, Abu Ot, juste avant le Fatiha?
S'il le fait de temps en temps pour enseigner aux gens et pour dire aux gens que la basmala c'est recommandé de faire ça, il n'y a pas de mal, inshallah ta'ala. D'accord? Mais il faut savoir que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas été rapporté qu'il ait dit à haute voix. Al-dalil, huna. Yaqul, bismillahi rahman rahim, li'annahu sayaqra'u al-fatiha, wa la yajharu biha, li hadithi Anas, radiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, wa aba bakrin, wa umara, كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. أخرجه البخاري ومسلم. فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. أنس قال لم أسمع أحدا من النبي وأبي بكر وعمر يقرأ البسملة. Et Jahran. Là. Et non. Donc la preuve, c'est quoi? Que le prophète ne l'a pas fait. Le hadith de Anas, dans lequel il dit que ni le prophète, ni Abu Bakr, ni Omar n'ont commencé la récitation par Alhamdulillah Rabbil Alamin. Par le Basmala, pardon. Ils l'ont tous commencé par Alhamdulillah Rabbil Alamin. D'accord? Ça veut dire qu'il ne les a pas entendus le dire. Ça ne veut pas dire qu'ils ne l'ont pas fait. Ça veut dire qu'ils l'ont fait, mais à voix basse. Mais à voix basse. D'accord ? هذا مقصود حديث أنس. C'était ta question, Akhi ?
Alors, c'est une erreur de le dire à voix basse. Si ils ne l'ont pas fait.
De temps en temps, les ulama disent c'est pour enseigner aux gens et tout. Tu peux le faire de temps en temps, Inch'Allah. Comme on fait. Comme a fait le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, des fois pendant les prières à voix basse, il récitait à voix haute. Il récitait à voix haute certains versets pour enseigner aux gens certaines choses. Donc dans le cadre de l'enseignement, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. C'est bon, les frères? Allez. Thumma yaqra'u al-fatihata wa qira'atuha ركن لحديث عبادة بن صامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أخرجه البخاري ومسلم. نعم. Donc après la basmala, tu récites sourat al-Fatiha. Ça c'est un pilier. Ça par contre c'est un pilier. D'accord? Donc on a vu combien de piliers en tout pour l'instant avec la Fatiha? Trois piliers. Le premier, el qiyam ma'a al qudra fil fard. Le deuxième, takbirat al ihram. Et le troisième, qira'at al fatiha. Donc un rukn, quoi? Un rukn, même si tu l'oublies involontairement, tu dois refaire ta prière. Ça, c'est un pilier. Tu dois refaire ta prière ou ta raka'a. Tu dois rattraper ta raka'a, dans tous les cas. D'accord ? Imagine que tu es rentré en prière, tu as levé les mains, mais tu n'as pas dit Allahu Akbar. Tu as oublié. D'accord ? Et tu t'en es rendu compte à la deuxième raka'a. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais ? Tu dois recommencer du début. Tu sors de prière, tu recommences du début. Hein ? C'est pareil. C'est pareil, il sort de prière, il recommence du début.
Non. Ça veut dire que tous ceux qui sont derrière, eux aussi, recommencent ?
Ils recommencent avec l'imam. Non, ils recommencent avec l'imam.
C'est par exemple, il est dit de toutes les rakaat, sauf la première, par exemple.
J'ai pas compris.
Par exemple, je sais pas, dans Salat al-Dhuha, il ne dit pas Allahu Akbar. Mais dans les rakaat suivantes, il le dit.
Il peut pas. De toute façon, là, on parle de takbir al-ihram. C'est le premier takbir dont on parle. On ne parle pas des autres. Les autres, on va en parler après, Inch'Allah. On va en parler. Taïe. Donc, ça fait trois piliers en tout. Troisième, Surat al-Fatiha. En vertu du hadith de Ubadata ibn Samit, radiallahu anhu, dans lequel il dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pas de prière pour celui qui n'a pas lu l'ouverture du livre. Fatihatu al-Kitab. C'est-à-dire Surat al-Fatiha. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Donc la salata, c'est-à-dire, ici c'est quoi ?
Pas de prière.
Pas de prière du tout. Pas de prière valide. Pas de prière complète. C'est quoi ici ?
Valide.
Hein ? La salata et nafa sihataha. D'accord ? Ici pas de prière, c'est-à-dire pas de prière valide. Mais sinon, en apparence, il peut y avoir une prière en apparence, avec les gestes, les paroles, etc. etc. Mais la validité, là,
elle
n'est pas valide. Hein?
Celui-là qui ne la connaît pas.
Surat al-Fatiha, il doit apprendre. Et s'il a, c'est l'heure de la prière qu'il n'a pas le temps de l'apprendre, il peut faire la dua qu'a enseigné le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à la place.
Tu rentres en prière en recours. Donc, tu n'as pas fait Tekbir al-Ihram avec tout le monde, tu n'as pas fait la fatiha avec tout le monde. Est-ce que tu refais la raka ou pas ?
Non, si tu as attrapé au recours, tu as attrapé la raka. Déjà, l'imam il est en recours, ouais. Toi tu arrives, tu es en recours, alhamdoulilah. Dans ce cas-là, tu es excusé de la fatiha. Dans ce cas-là, tu es excusé de la fatiha. C'est pour le masbourg, ça. Le masbourg, son jugement est autre.
C'est quoi la doua ?
Hein?
C'est quoi la doua?
Il faut chercher, Inch'Allah. N'assiette la doua. Badalana ala al-Fatiha. Celui qui n'a pas appris encore le Fatiha, elle est courte. Elle est courte. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah. Hakada? Mais je crois que j'oublie autre chose. Il y a le tasbih, il y a le tahmid. Hein? Il faut voir après, Inch'Allah. Exactement. Non, mais par rapport à la Fatiha, d'abord il fait ça, il fait la dua. En général, s'il ne connaît pas le Fatiha, il ne connaît aucune surah.
Mais nous, ça nous arrivait un cas où un frère, il n'arrivait même pas à le dire, il voulait prier direct. Et on lui avait dit de faire que le tasbih. Parce que même, subhanallah, il galérait à le dire.
Quoi, le tasbih ou l'invocation?
Même si nous on lui avait dit l'invocation, il n'arrivait pas à le, tu vois, le mémoriser.
Il l'écrit sinon, il écrit sur un papier.
Mais lui il voulait rentrer direct en prière. Ça fait qu'on lui a dit, après il a mémorisé le tasbih et
Il va faire ça une fois, il va pas faire ça 30 fois non plus, tu vois. Donc il est permis également, si tu ne connais pas le Fatiha, tu l'écris sur un bout de papier. Tu l'écris sur un papier et pendant la prière tu lis. Classe, t'as un homme. Est-ce que c'est bon, je crois ? Non. Donc, Abdelrahman, Qum ?
Tu n'as pas traduit.
Tu n'as pas traduit quoi ? Si, j'ai tout traduit, ça y est. Ça y est ?
Tu n'as pas reçu, mais qui est venu le Dalil ?
Le ?
Le Dalil.
Dalil, si je ne dis pas de prière valide pour celui qui n'a pas lu Surat al-Fatiha de Ubad ibn Samit. Et là, Bismillah. Donc, tu vas faire la prière du début jusqu'à Surat al-Fatiha, bismillah.
Allahu Akbar. A'udhu billahi.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم سي بون الحمد لله بارك الله فيك. Donc vous rappelez, ah ouais, il n'a pas fait de l'istifta, c'est pas grave. Vous rappelez, yani, au niveau de la hauteur des mains, soit au niveau des épaules, devant les épaules, c'est pas là, c'est devant les épaules, comme ça. Devant les épaules ou devant les oreilles. Devant les épaules ou devant les oreilles. Et les doigts, yani, pas écartés comme ça, et pas collés non plus, normal. Normal, naturel, tu vois. Après, on a dit les quatre manières de poser les mains. Soit comme ça, soit comme ça. Soit comme ça, ou soit comme ça. Quatre. Sur la poitrine ou sur le ventre. Sous le nombril, daif. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Dua al-istiftah. Dua al-istiftah. D'accord. Ensuite, ta'awud, si on récite. Et après, surat al-fatiha.
Ta'awud, c'est obligatoire?
Non. C'est pas obligatoire. Non, c'était pas la semaine dernière, on a parlé de tout ça. Là, le fait de toucher les oreilles avec ses doigts, le fait de faire ça aussi. Là, tu fais ça, après tu fais ça. Là, il y a rien de sunna. Là, il y a rien de sunna, bédalik, abadan. Ni ça, ni rien du tout. La sunna, elle est venue avec lever les mains, c'est tout. Lever les mains, poser les mains. Lever les mains, poser les mains. Rien d'autre. D'accord. Le reste, là. Est-ce que c'est clair, les frères? Allah Ta'ala a'lam. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Shadu la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.